1-5.
CIBL, au cœur de la culture.
Et bonjour tout le monde, ici Alexandra Guélil, heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL pour vous parler de droit autrement. Avec moi, en studio, Youssef Choufane pour un court-métrage bien particulier, Youssef.
Oui, j'ai vu Rupture divine récemment dans le cadre du Festival international du film sur l'art. Et puis, il y avait un lien bien particulier avec Angle Droit. Donc voilà, on va parler de ce film, mais aussi de thérapie de conversion.
Bien, hâte d'en entendre parler, Youssef. On a aussi Mélodie Bombardier pour parler de loi, disons-le, surprenante. Mélodie?
Oui, exactement. Donc, en cette journée du livre, ma collègue Marie-Neige Prisbois et moi, on s'est vraiment amusés à lire le code criminel et le code civil pour trouver les lois les plus surprenantes. Puis on voulait vraiment vous les partager pour vous montrer que le droit est partout puis qu'il s'applique à plein de situations de notre quotidien.
Donc, on a hâte d'entendre cette chronique, Mélodie. Et comme tu l'as dit, hein, on va recevoir un invité bien particulier aujourd'hui en cette journée internationale, mondiale, du livre. Ce sera le directeur général de Copybeck, Christian Laforce, qui sera avec nous par téléphone. Nous allons parler à la fois de droit d'auteur, du plaisir de la lecture, mais aussi des défis que nous avons à relever encore en matière de transmission culturelle. Une belle discussion en cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Angle Droit. C'est parti. Mais tout de suite, on commence avec les actualités de la semaine proposées par Marc-Antoine Harvé. Salut Marc-Antoine.
Bon matin Alexandra.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, alors tu as regardé les actualités pour nous cette semaine et la semaine dernière. On commence avec un professeur de l'université Queen aux États-Unis qui va offrir un cours de droit axé sur Taylor Swift.
Taylor Swift, Alexandra. La preuve que la chanteuse a un impact culturel sans précédent. Le Taylor Swift Law Course sera offert en septembre 2024, comme tu l'as dit, à l'Université Queen's aux États-Unis par le professeur de droit Mohamed Kimji. Ce sera un cours en droit du divertissement qui utilisera les batailles juridiques de la chanteuse comme fil conducteur du plan de cours. Alors, qu'est-ce qu'on va parler dans le cours de droit du divertissement? De droit d'auteur international, d'enregistrement d'albums, comment engager les producteurs, les musiciens, comment faire les négociations, comment signer les contrats. Et je pose la question, parlera-t-on de séparation de couple? Hein? Mm-hmm. C'est un thème omniprésent dans l'univers musical de la chanteuse, mais ne souhaitons pas de malheur à son copain Travis Kelce, le joueur des Chiefs.
Sûrement pas, Marc-Antoine. Alors, l'actualité numéro 2, le ministre fédéral de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Mark Miller, reçoit à son tour une mise en demeure lui demandant de débloquer le traitement des demandes de parrainage.
Alexandra, c'est assez rare qu'un ministre fait l'objet d'une procédure judiciaire, hein? Mm-hmm. Selon l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, le délai des demandes de parrainage, ou autrement appelé la réunification familiale, pour les époux, et les épouses et les conjoints ou les conjointes de fait, nécessite 8 mois partout au Canada, sauf au Québec où ces délais sont de 24 mois, soit 3 fois plus long qu'ailleurs. C'est 2 ans, ça, Alexandra. Mm.
Et donc, la mise en demeure, rappelle-moi.
Oui, exact. Donc, la mise en demeure lui donne 15 jours pour produire un calendrier de traitement des demandes. Et ce calendrier devra être clair, public, ordonné et raisonnable. Mm-hmm. Si rien n'est fait, un recours en mandamus sera déposé devant la Cour fédérale du Canada. Et je te pose la question, Alexandra, un mandamus, est-ce que...
C'est du latin?
Non, et ce n'est pas un animal au parc safari.
Ah!
Ouais, non, c'est une procédure extraordinaire en droit anglais. Ça date de longtemps, de la common law. C'est lorsque le tribunal supérieur peut ordonner à une autorité inférieure d'exercer sa compétence. En d'autres mots, c'est un mandat qui demande « fais donc ta job ». Mm-hmm. Hein? Historiquement, le monarque envoyait le mandamus à ses inférieurs pour les obliger à leur faire faire leurs obligations administratives et le nom est resté implanté dans notre droit juridique moderne. Et c'est une procédure spéciale, donc si l'appel est disponible, le mandamus ne sera pas le recours approprié.
Troisième actualité, le droit du travail en vedette. Ça brasse, hein, notamment chez Amazon, Airbus et la SAQ.
Oui, en vedette dans l'actualité, le droit du travail... syndicat chez Amazon, c'est une première au Canada. Les employés d'un entrepôt d'Amazon dans la région de Montréal ont déposé une demande pour former un syndicat. Hein? La requête en accréditation a été déposée au tribunal administratif du travail vendredi et c'est l'étape nécessaire pour créer n'importe quel syndicat. Le tribunal doit analyser la demande et valider les signatures des employés. Est-ce que tu sais, Alexandra, ça prend combien de personnes pour créer un syndicat?
Je ne suis pas sûre de la réponse, éclaire-moi.
Minimalement deux. On ne peut pas le faire tout seul.
D'accord.
Alors, Amazon rappelle qu'elle n'est ni ouverte ni fermée à la démarche. Hein. Selon ses dirigeants, il revient aux employés de décider s'ils souhaitent ou non adhérer à un syndicat. Il en a toujours été ainsi. On change maintenant du côté d'Airbus. Les négociations se poursuivent, mais la grève persiste même si une entente de principe a été présentée aux travailleurs et aux travailleuses de Mirabel. Ça a été rejeté dimanche à plus de 68 %, mais c'est quand même une plus petite proportion que lors des deux offres précédentes. On se rappelle, les syndiqués d'Airbus à Mirabel travaillent sur les avions A220 de la compagnie. C'est l'ancienne usine de Bombardier. Alors, à la maison, une grève, c'est un arrêt de travail décidé par un groupe d'employés lorsque leur convention collective est expirée. Mais on ne peut pas faire ça n'importe comment. Les employés doivent respecter certaines règles pour que leur grève soit légale. D'abord, la convention collective doit normalement être expirée depuis au moins 90 jours. Le syndicat doit aussi faire parvenir un avis écrit à l'employeur un peu plus d'une semaine avant de faire la grève. Hein? L'employeur doit, lui, s'abstenir de remplacer, envoyer ou autrement sanctionner un employé en réaction à l'exercice du droit de grève. C'est un droit garanti au Canada.
Et le dernier point, hein, c'est du côté de la SAQ. Qu'est-ce qui
se
passe?
Oui, en fait, c'est une menace de grève par la SAQ, la Société d'alcool du Québec. Qui est présente aujourd'hui dans les médias et on aura plus d'informations au cours des prochains jours à ce niveau.
On suivra alors les avancées à ce sujet. Merci beaucoup Marc-Antoine, puis on se retrouve très bientôt en chronique ou en actualité.
Merci.
Et le 23 avril est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une date clé pour marquer et promouvoir le plaisir des livres, de la lecture. L'idée de la journée est reconnaître l'étendue des livres, créer un lien entre le passé et l'avenir, bref, une sorte de pont entre les générations et à travers les cultures. Fraîchement de retour de Paris, où se tenait le Festival du livre, on a avec nous Christian Laforce. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci. Et vous?
Très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes directeur général de Copybeck. J'aimerais qu'on commence par le commencement. Pourquoi est-ce qu'il était important pour le Québec d'être présent à Paris?
C'était la première fois depuis 25 ans que le Québec était invité d'honneur au Festival du livre de Paris. C'était l'occasion rêvée d'avoir en ma compagnie tous les autres. Près de 70 auteurs, autant des maisons d'édition et aussi des partenaires qui se trouvaient dans un seul et même lieu. Donc, ça favorisait un peu la rencontre que je dois faire à chaque année avec tous ces gens-là. Puis aussi, c'est une occasion unique pour moi de voir un peu comment ça se passe au Salon du livre. J'ai vu ceux de Québec, de Montréal, mais pour la première fois Paris. Et aussi, on en a profité parce qu'on était sur les lieux pour faire des enregistrements, parce que vous savez qu'on a eu une subvention de Commémoration Canada pour faire la réalisation de 6 balados en langue anglaise et française concernant le 100e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur.
Alors, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. Hein. C'est justement le prochain sujet que je voulais aborder avec vous. C'est bientôt hein, le 100e anniversaire ou actuellement le 100e anniversaire de la loi sur le droit d'auteur. Créez avec Copybeck un balado sur le sujet. Alors, pourquoi il faut sensibiliser le monde sur la loi hein, sur le droit d'auteur?
Ben, c'est important de sensibiliser les gens parce qu'un droit, c'est comme jamais acquis. Il faut toujours sensibiliser les gens de façon de respecter le droit d'auteur. C'est quelque chose que des fois, on prend pour acquis. Les gens se disent « OK, moi, je peux faire des reproductions. Moi, je peux faire n'importe quoi avec l'œuvre qui me passe entre les mains. » Ce n'est pas le cas. Je vous dirais qu'on a, nous, notre travail principal, c'est de faire la sensibilisation auprès des différents professeurs de l'éducation au Québec, que ce soit le primaire, secondaire, que ce soit les cégeps ou encore le milieu universitaire. On signe des licences avec eux. Dans nos licences, qu'est-ce que ça leur permet de faire? C'est de reproduire un extrait d'un œuvre qui a été utilisée dans la classe. Et à ce moment-là, une fois que l'œuvre a été utilisée, les professeurs doivent faire... Oh, là, je fais des guillemets, mais vous ne me voyez pas, vous m'entendez? Faire une déclaration dans Savia, qui est notre plateforme transactionnelle, pour nous permettre à nous, Copybeck, de gérer les droits d'auteur, de remettre aux ayants droit, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs ou les artistes en art visuel, les sommes qui leur reviennent pour avoir utilisé leurs œuvres.
Alors, Monsieur Laforce, hein, je profite hein, de votre lien avec le terrain, de votre lien aussi avec les auteurs les auteurs québécois, sans entrer précisément dans ce que dit cette loi. Quelles sont leurs préoccupations? Quels sont leurs besoins?
Ben, leurs besoins, c'est juste que ce soit comme à chaque fois qu'il y a une utilisation de leur œuvre, qu'ils soient payés. Parce que ça, c'est le but de la loi, c'est de protéger leurs droits. Mm-hmm. Faire en sorte aussi que lorsqu'il y a eu un amendement qui a été fait en décembre 2022, si je ne m'abuse, au niveau de la portée de la loi du droit d'auteur, donc la durée, donc on passait de 50 à 70 ans pour permettre justement aux auteurs de recevoir des dividendes ou encore leurs successeurs, leurs héritiers. Qu'est-ce qui arrive aussi, nous, les représentations que nous avons faites au cours des dernières années, je vous dirais depuis 2012, il y a une modernisation de la loi sur le droit d'auteur qui permet aux institutions d'enseignement de faire une utilisation équitable de la reproduction des œuvres. Mm-hmm. Je m'explique. Ça veut dire que si vous êtes un professeur dans une université, vous désirez utiliser une œuvre de Kim Thuy, par exemple, vous prenez son œuvre, et pour vous, dans votre tête, l'utilisation équitable peut correspondre à un certain nombre de pages que vous dites, OK, ça c'est bon, j'en ai pris, puis j'ai sans verser de redevance à l'auteur. Qu'est-ce qui arrive? Ce modèle-là est peu présent au Québec parce que nous avons des licences, mais qu'est-ce qui reste dans le reste du Canada, pardon? C'est que les universités, tous les maisons, les établissements d'enseignement n'ont pas de licence avec Access Copyright, qui est notre société sœur dans le reste du Canada, qui fait en sorte que cette utilisation dite équitable prive de redevances et de les auteurs et les éditeurs du reste du Canada. Donc, on a pu chiffrer au cours des dernières années environ les pertes à 300 millions de dollars qui n'ont pas été versées aux auteurs et aux éditeurs, qui n'ont pas été réinvestis dans la culture canadienne, permettant ainsi de publier de nouveaux ouvrages et aussi d'assurer une amélioration des conditions de pratique des auteurs.
Monsieur Laforce, on s'entend qu'il y a une loi, il y a des réalités différentes, que ce soit au Québec ou dans le reste du pays. Quelles sont les réalités typiquement québécoises sur ce sujet? Quels sont nos enjeux ici au Québec?
Les enjeux au Québec, c'est de voir que ça se passe relativement bien au Québec. Il y a comme une forte, propension par les maisons d'édition, pas d'édition, mais d'enseignement, à signer nos ententes, à signer des licences. On a aussi une grande percée au niveau des villes. On a aussi une grande percée au niveau des compagnies dites privées. Donc, il y a un grand respect, mais c'est un travail... à chaque jour, faire en sorte de sensibiliser les gens, faire en sorte que la loi du droit d'auteur soit respectée. Mm-hmm. C'est sûr que les incidences par rapport au reste du Canada sont moindres, sauf qu'au niveau des montants versés pour chacun des auteurs ou éditeurs, on subit des pertes, pas des pertes, mais des baisses au cours des dernières années.
Mm-hmm. Est-ce que c'est pour ça que
c'est moins d'argent?
Est-ce que c'est pour ça que Copybeck a pris position suite à la publication du dernier budget?
Oui, c'est ça, parce que nous, on avait travaillé très fort, je voudrais, tout le milieu littéraire canadien. On a multiplié les rencontres. Je vous dirais qu'on a comme travaillé d'arrache-pied pour essayer d'avoir comme la certitude que le gouvernement fédéral était pour instaurer dans le dernier budget des mesures justement pour contrer l'utilisation équitable. C'est quelque chose qu'on croyait acquis. Malheureusement, ça ne s'est pas produit le 16 avril dernier. On va reprendre le bâton du pèlerin, on va refaire nos représentations pour qu'on puisse avoir vraiment une modernisation, une vraie modernisation, une réforme de la loi sur le droit d'auteur au cours des prochains mois.
Autre bâton du pèlerin à reprendre, l'intelligence artificielle. Là aussi, il y a des enjeux, hein, je me trompe?
Ah non, vous ne vous trompez pas du tout. C'est sûr qu'il y a des enjeux. On est comme monde. On travaille très fort aussi pour faire des représentations, parce que pour nous, c'est une nouvelle façon de faire. C'est qu'il faut comprendre que le droit d'auteur s'applique seulement aux œuvres réalisées par des humains. Avec l'intelligence artificielle, c'est pas le cas. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est de préserver toutes les œuvres et de verser des redevances aux œuvres qui ont été utilisées justement par les générateurs de contenu. Si on essaie d'avoir ça, on a présenté lors du proposition de la loi C-27, on a fait des représentations pour justement instaurer quelque chose comme de quoi qu'on demande plus de transparence pour savoir qu'est-ce qui a été utilisé, quand et comment qu'on peut verser des redevances. On a demandé qu'il n'y ait pas d'exception pour l'intelligence artificielle dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur qui est actuelle. Fait qu'on essaie de maintenir nos acquis puis voir en sorte de protéger, bien entendu, les auteurs et les éditeurs.
Merci beaucoup, Monsieur Laforce. Je rappelle que vous êtes directeur général de Copyback. Avant que vous raccrochiez, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut entendre le balado qui concerne le 100e anniversaire de la loi sur le droit d'auteur?
C'est une excellente question. Nous sommes en train de le préparer. Nous avons fait des entrevues dans le cadre du Festival du Livre de Paris. On poursuit nos entrevues, notre packaging, puis on devrait lancer ça pour l'automne prochain dans le cadre de l'IFRO, qui est l'Organisation internationale des différentes sociétés de gestion de droits de reproduction à travers le monde. Ça devrait être autour du 30 septembre.
On sera à l'écoute. Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé pour l'entrevue.
Merci à vous et bonne journée du droit d'auteur.
Bonne journée. Bye-bye. On parle cinéma pour poursuivre cette émission. Youssef, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Très bien, merci. Alors, tu as vu récemment le court-métrage qui se nomme « Rupture divine » du réalisateur Malak Mouek, qui a été présenté en mars dernier dans le cadre du Festival international du film sur l'art. D'ailleurs, je pense que tu étais membre du jury sur ce festival et tu voulais nous en parler aujourd'hui. Pourquoi?
Et parce qu'il y avait un lien particulièrement clair avec l'émission. Puis en fait, ça s'était présenté dans le cadre d'une soirée qui s'appelait « Regards de femmes, carte blanche à l'Institut du monde arabe ». Donc, l'Institut du monde arabe qui a sélectionné une série d'œuvres venant de la région, mais au-delà aussi parce qu'on avait un film iranien. Puis un d'entre eux, donc « Rupture divine », en arabe « Zakr al-Jasad », donc qui se traduit pas de la même façon parce que ça veut plutôt dire « mémoire du corps », donc ça traduit arabe. Mais donc, c'est un court-métrage de 20 minutes, assez percutant parce qu'il vient nous chercher. Et donc, voilà, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que, on parle de thérapie de conversion dans ce court-métrage-là.
Précisément, Youssef, on parle de quoi parle ce film au-delà de ce que tu viens de brosser? Raconte-nous ce film.
En fait, c'est l'histoire de deux femmes, probablement début trentaine, qui ont une relation amoureuse, qui sexuelle, et très rapidement, on passe à quelque chose d'autre, on passe à ce désir de ce qu'on comprend être la mère d'une de ces deux femmes-là, de vouloir changer le cours des choses dans l'orientation sexuelle de sa fille. Donc, voilà, on fait un aller-retour entre la réalité de ces deux femmes-là, ce qu'elles vivent comme processus de conversion désiré par la mère, mais aussi un troisième état qui est celui de l'imagination, qui est plus poétique entre ces deux femmes-là. Donc, on est vraiment dans ces trois lieux. Pendant le court-métrage.
Alors, trois lieux différents en à peine 20 minutes. Dis-moi, comment le cinéma peut avoir un impact sur nos perceptions, surtout quand on parle de sujets sociétaux comme ça?
Pour un film comme celui-ci, même s'il est vraiment très beau donc dans la cinématographie, on est presque dans le documentaire dans le sens où on en apprend beaucoup sur les manières dont les choses sont faites. Je suis pas un expert, donc je sais pas vraiment comment ça pourrait se passer au Liban, parce que là, c'est contextualisé. Géographiquement, on est dans un lieu fixe qui, d'ailleurs, c'est un pays où d'habitude, on le connaît. Pour cette région-là, est assez avant-gardiste, disons, mais là, on plonge dans un terrain où est-ce qu'on se dit « Oh, il y a des choses qui se passent qui sont peut-être, qui seraient certainement pas en tout cas légales ici. »
Dis-moi, Youssef, est-ce qu'on nomme le Liban? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le ressent par les images, par les sons? Puisqu'on sait hein, que dans la cinématographie arabe en général, on ne montre pas ou on suggère fortement des points culturels, tout simplement.
C'est suggéré tout au long de la vidéo parce que y a pas de dialogue, on pourrait même pas déchiffrer l'accent d'où ça vient. Mm-hmm. Par contre, c'est clairement indiqué dans le sens où je peux s'en dévoiler de fin. Le film se termine avec la phrase « La thérapie de réorientation sexuelle », donc c'est comme ça que c'est nommé, « La thérapie de réorientation sexuelle est toujours appliquée au Liban », donc on comprend une intention politique au-delà du film même.
On écoute un extrait? On écoute un extrait. Alors, c'est de la radio, on n'a pas l'image, on n'a que le son. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Youssef?
Ça aurait pu être probablement beaucoup de choses, mais donc pour vous ajouter des images dans votre tête, c'est donc une étape de cette thérapie-là où est-ce que cette jeune femme-là est invitée. C'est assez loufoque, malgré le côté lourd dans la salle de cinéma ce soir-là. Ce moment a quand même fait rire les gens. C'est parce qu'on prenait la main de la fille qu'on mettait sur le corps d'un homme. Et donc, elle a un gant, parce qu'il ne faut pas qu'elle le touche quand même trop, pour un peu lui redonner le goût d'aimer les hommes.
Youssef, ça a l'air d'être un film très percutant. C'est un sujet hein, qui revient beaucoup dans l'actualité, un lien aussi avec Ducalois. Quelle forme hein, peut prendre une thérapie de conversion? En fait, on en parle, mais on ne l'a pas défini, donc j'aimerais qu'on termine par ce point important.
Rapidement, on peut donc dire qu'elle peut être donnée par une personne vraiment du milieu de la santé, groupe religieux, un groupe d'entraide. Ça peut être payant, ça peut ne pas être payant. Dans tous les cas, la loi, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une différence partout dans le monde, mais on a parlé du Liban, ici au Canada. La loi a changé en 2022, donc voilà, c'est un sujet qui est quand même d'actualité, et donc on en parle de cette manière aujourd'hui, mais évidemment, ça nous touche à Montréal, au Québec, au Canada. Donc oui, les lois ont changé, ça reste un sujet d'actualité.
Merci beaucoup, Youssef. Et contrairement à ce que j'ai pu dire tantôt, il ne s'agit pas d'un réalisateur, mais d'une réalisatrice, ma langue a fourché.
Voilà, mais donc c'était superbe d'avoir justement un regard de femme, autant derrière que devant la caméra. Donc je pense que c'est important, oui, voilà, d'avoir ces regards-là.
À très bientôt, Youssef. On continue avec le thème hein, de la journée du livre et du droit d'auteur. Donc, dis-moi Mélodie, salut.
Allô.
T'as encore un sujet assez loufoque à nous proposer aujourd'hui?
Oui, donc moi, en fait, je me suis vraiment amusée à trouver les lois qui sont un peu surprenantes que j'ai lues, puis j'ai fait comme « Ah ouais, c'est encore en vigueur » ou « Ça l'a déjà été en vigueur ». Donc, je me suis vraiment amusée à lire ça puis à essayer de vous trouver les trucs les plus cocasses ou surprenants à vous présenter aujourd'hui.
Alors, on commence présenter... donc, on va parler de lois, pardon, hein, de cas inusités au Québec. Vas-y, je te suis.
Ben, je vais commencer avec le premier, ça va être plus clair ensuite. Donc, est-ce que vous saviez que le code criminel prévoit qu'il est illégal de causer la mort d'une personne malade ou d'un enfant en lui faisant peur volontairement. Donc, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai trouvé un exemple fictif pour illustrer cette loi-là. Donc, ma grand-mère est à l'hôpital, par exemple, puis moi, je suis avec elle, puis elle a le hockey. Puis là, je me dis, ah, ben moi, j'ai entendu que pour faire partir le hockey, on peut faire peur à la personne. Fait que là, je me dis, ah, je vais lui faire peur, elle aura plus le hockey. Mais finalement... comme elle est malade, ben ça crée une crise cardiaque quelconque qui fait que ça cause sa mort. Donc, avec tout ça, je pourrais être tenue criminellement responsable de la mort de ma grand-mère parce que j'ai voulu lui faire peur volontairement.
Mm-hmm, oui, mais ton intention, elle, ouais, non, n'était pas la tuer. Est-ce que...
Tu peux peut-être être accusé, mais peut-être qu'ensuite, tu aurais une défense.
Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que la loi, justement, on n'a pas vraiment trouvé beaucoup de cas où est-ce qu'elle a été appliquée parce qu'on s'entend que c'est quand même... l'intention n'était pas nécessairement de tuer ma grand-mère.
Donc attention quand même.
Exactement.
Pas de blague, restez sérieux.
Exactement. Sinon, il y a aussi le code criminel, il est interdit de faire une fausse alarme d'incendie. Donc, d'ici là, ça va, mais ça précise en criant à l'aide de cloches d'un téléphone ou d'un télégraphe. Mm-hmm. Donc, il est encore possible de se faire arrêter si on fait une fausse alarme d'incendie avec un télégraphe. Puis moi, je voulais vraiment souligner le fait que si tu es capable de trouver un télégraphe, de savoir comment ça fonctionne, puis de faire une fausse alarme d'incendie, il faut quand même le faire. Faut quand
je
même
pensais
être
que
tu
allais dire tu mérites de...
Non, tu mérites pas, mais il faut quand même une grande motivation pour se rendre là, on s'entend.
J'imagine bien. On peut rappeler peut-être aux jeunes générations, c'est quoi un télégraphe peut-être,
ben, je peux vous laisser expliquer c'est quoi un télégraphe, parce que je pense pas que j'étais née quand ça existait les télégraphes. Là, donc, c'est plutôt...
Est-ce que c'est la même chose que les fax, non?
Non, c'est comme une machine que tu peux envoyer des codes...
En bas,
c'est ça, c'était exactement ce genre de machine-là, les amis. On continue, Mélodie.
Ouais, donc, est-ce que vous saviez qu'il est permis de faire une arrestation citoyenne, donc de procéder à l'arrestation de quelqu'un en attendant que la police arrive, si, par exemple, elle commet un acte criminel sous vos yeux? Donc, vous voyez, par exemple, quelqu'un voler une banque, là, sort, là, vous avez le droit de l'arrêter. Mm-hmm. Mais il faut utiliser d'une force raisonnable pour l'arrestation. Puis j'ai trouvé un cas qui a eu lieu au Québec qui explique un peu cette loi-là, puis je l'ai vraiment trouvé assez... spécial. Donc, je vais vous le lire un peu, vous me direz ce que vous en pensez. Okay. Donc, c'est un avocat retraité qui voulait... en fait, il mettait tout le temps de la nourriture de son chat dehors, devant chez lui. Puis, ça faisait tout le temps voler. Fait que là, il comprenait pas trop. Il a mis une caméra, puis il disait que ça devait être sa voisine, tu sais, qui volait la nourriture. Fait qu'il a mis la caméra pour la filmer, mais à place d'appeler la police, quand il a vu sa voisine arriver pour voler la nourriture, il est sorti avec une serviette, il lui a mis autour de la tête, il l'a comme étranglé avec la serviette, il l'a ligoté, il l'a lancé par terre, il a attaché les mains et les pieds.
Ça, c'était-tu de la force déraisonnable?
Ben, exactement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a été lui-même qui a été arrêté puis condamné pour voie de fait. Donc, il y avait, la cour elle avait déterminé qu'il avait fait force excessive. Puis ce qui est encore plus drôle, là, c'est que lui, là, il s'est dit « Ah, ben moi, je vais déposer quand même une poursuite civile de 25 000 $ contre ma voisine pour les dommages compensatoires de la nourriture. Mm-hmm. » Mais finalement, le juge a condamné le gars a versé 2000 $ à sa victime pour dommages punitifs. Fait que finalement, lui, il voulait juste essayer d'arrêter sa voisine, puis c'est lui qui s'est ramassé avec, avec toutes ses arrestations. Exactement.
Et si je te demande une toute dernière loi?
Oui, est-ce que vous saviez, en fait, qu'il existe un montant maximal qu'on ne peut pas dépasser lorsqu'on paye avec de la monnaie?
Je crois qu'on l'avait abordé dans cette émission, non? Il me semble, je ne sais plus.
C'est possible, c'est possible. Ben, par exemple, je vous dis, là, en 25 sous, vous croyez combien? On peut aller jusqu'à combien?
Une chaudière.
C'est ça, c'est-tu en volume ou en quantité d'argent?
C'est en quantité, en fait, c'est jusqu'à 10 $ qu'on peut aller. Puis ça, c'est valide autant pour les particuliers que par les commerçants. Fait que, par exemple, moi, je veux payer mon propriétaire mon loyer à 1 500 $ en pièces de 2 $. Il pourrait me dire non, selon la loi, t'as pas le droit de me payer comme ça. Puis ça pourrait justement faire que je doive trouver une autre façon de payer mon loyer.
Mélodie, tu reviens quand tu veux nous partager ce genre d'anecdote légale. On aime ça, c'est ce que les gens aussi aiment, j'imagine. Et vous l'entendez, hein, c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous avons une adresse courriel, angledroit@commercialeducalois.qc.ca. Et on dit merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde, ainsi qu'à Jason Paré à la réalisation. Ici Alexandra Guélil, bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Il y a une maudite.
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio, Gaëtan?
Mais non.
Voyons, je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaëtan, c'est un annonce, c'est le mercredi. Ben...
Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
CIBL, l'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
Libre!